Bonjour et bienvenue sur Graines d'osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer, avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interview aux côtés d'invités inspirants. Alors installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Bénédicte.
Bonjour Mathilde.
Comment vas-tu en cette journée ?
Mais écoute, j'ai envie de te dire journée pluvieuse, mais on a le sourire pour cette première interview avec toi.
Exactement. En plus, on se retrouve du coup pour expliquer aussi dans des locaux à Lille où tu es venu de Paris pour qu'on enregistre cet épisode. Et du coup, c'est un épisode qu'on enregistre pour la première fois en collaboratif puisque c'est un épisode qui se retrouvera du coup sur le podcast de Memento et le podcast de Graines d'osmose. Eh bien écoute, moi je suis super contente de vivre cet épisode avec toi aujourd'hui puisqu'on a voulu le vivre autour du sujet de la slow communication parce que c'est un sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et du coup, pour embrayer et démarrer, je te propose de te présenter, de nous en dire un peu plus aujourd'hui sur qui tu es, ce que tu fais et pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu aurais envie de te présenter.
Ok, merci déjà. Je m'appelle Bénédicte, je suis consultant en slow communication. Depuis janvier 2021, j'ai créé l'agence High Fidelity en conseil et stratégie. Et depuis août 2022, je me suis orienté vers la slow communication. Et au quotidien, j'aide les créateurs, les entrepreneurs et les marques responsables à communiquer moins et mieux pour qu'ils puissent se consacrer à leur activité.
Ok, top. Mais du coup, pour la suite, par rapport à ce sujet-là, on va rentrer dans le vif du sujet et notamment rentrer aussi sur comment on s'est rencontrés tous les deux, puisque c'était au détour d'Instagram, et
c'est
notamment
ça.
Avec le hashtag slow communication,
oui.
Je crois bien.
Non, c'est bien ça.
Du coup, tu m'as contacté et tu m'as envoyé un message, et en fait, le fait qu'on découvre que l'un et l'autre, on avait choisi de prendre une alternative à la communication classique, en tout cas, ça a démarré comme ça, et c'est beau aujourd'hui de voir que, du coup, au détour d'un écran, on a transformé cette rencontre en réalité et on se retrouve là aujourd'hui. Pour embrayer sur le sujet, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur la thématique qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui.
D'accord.
Et notamment sur la slow communication, ce n'est pas que des principes, mais c'est aussi un état d'esprit. Et c'est ce qu'on avait envie, en tout cas, de transmettre et de partager aujourd'hui avec notre communauté. Comment tu en es arrivé à la réflexion du slow au travers de ton activité et de ton parcours entrepreneurial?
En fait, ça a commencé il y a un an exactement. J'avais terminé une mission avec une cliente et je devais en fait reprendre la création de contenu sur le compte de l'agence. Et je me suis rendu compte que j'avais plus trop envie, en fait, de créer du contenu. Et je me suis posé pas mal de questions. La première, ça a été, c'est les sujets que tu abordes qui ne sont plus vraiment d'actualité. Dans un second temps, ça a été aussi la fréquence. La fréquence en termes de mes publications qui était quand même assez conséquente, puisque je publiais 3 fois par semaine à cette époque-là. En ayant eu cette différente réflexion, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour toi de prendre une pause. Et cette pause-là, en fait, s'est transformée tout simplement en... j'ai décidé, en fait, de prendre des cours de storytelling et de copywriting. Parce que j'ai senti que, justement, les textes que j'abordais à mes clients étaient d'une lourdeur. il y avait énormément d'informations. Et je me suis dit que si vraiment tu voulais reprendre goût justement à la création de contenu, il fallait alléger tout ça. Et pendant tout un été, j'ai décidé de le faire. J'ai été accompagné par des profs qui ont été vraiment très sympas au niveau de la méthodologie ou autre. Et dès août 2022, je me suis orienté vers la slow communication. Voilà.
Ok, donc en fait, c'est parti vraiment d'un déclic où tu t'es rendu compte de la lourdeur, en fait, de la communication de manière générale, où toi, à un moment donné, t'as senti ce genre de dissonance à l'intérieur de toi, de dire, mais moi, j'ai pas fait ce métier-là, en tout cas, pour ça. Et du coup, les cours que tu prenais, c'était vraiment en parallèle, du coup, où à l'époque, t'étais encore en agence de communication.
C'est ça.
C'est ça,
c'est ça.
Ok.
Ouais.
Ok. Et donc, en juillet 2022, vraiment, il y a cette envie, en tout cas, de ton côté, de te lancer en direction de la slow communication, notamment avec le storytelling qui, toi, est venu t'aider. Du coup, aujourd'hui, par rapport à ce cheminement que tu as fait sur un déclic lié à la communication, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien d'entrepreneur et ton quotidien de communicant également pour toi, ta propre activité?
Alors, moi, ce qui a changé pour moi, c'est que ça m'a permis d'avoir un cadre de réflexion. Quand j'ai un cadre de réflexion, ça m'a permis de créer des contenus qui sont durables, ciblés et responsables. Chose que je ne faisais pas, on dirait, avant. Je créais beaucoup, on dirait, de contenu. Et je peux même te donner, en fait, un exemple. Généralement, on parle beaucoup d'éco, on dirait, conception. Mais l'éco, conception, c'est aussi utile avant même, en fait, de créer quelque chose. Il y a quand même une réflexion que tu dois, on dirait, avoir. Et petit à petit, tu vas voir si cette action-là, on dirait, aura un impact par rapport à la personne qui va lire derrière ou sur ce que tu as pu créer. Et c'est cette rigueur-là, justement, que moi, que j'ai pu avoir avec la slow communication que je n'avais pas. Et ça m'a permis aussi de pouvoir, en fait, me détacher de tous les modèles qu'on pouvait voir, on dirait, à l'époque, aussi bien sur les réseaux sociaux ou autres, qui disaient qu'il fallait qu'on publie à une certaine fréquence pour pouvoir attirer, on dirait, son client. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que justement, en ayant ma propre on dirait fréquence, ça m'a permis justement d'aller à mon rythme et de mieux aussi attirer on dirait mon public cible.
Ok, c'est intéressant que tu parles de rigueur, parce que du coup, on pourrait avoir cette notion que la rigueur, justement, c'est la communication, où on fait en fonction des algorithmes, on fait en fonction de ça. Et au contraire, c'est de prendre l'idée de la rigueur en sens inverse et de se dire, on vient se créer sa propre rigueur. Et ce que, en tout cas, moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu partages, c'est notamment, en fait, le fait que, bien souvent, l'image qu'on a de la communication, c'est de tout de suite se poser les questions sur le comment. Comment on le fait, comment on passe à l'action, comment on communique, etc. Et là, en fait, le déclic que tu as eu, et où moi, ça me parle beaucoup parce que c'est la manière dont je vois les choses, c'est avant tout se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi on le fait, tu t'es posé la question, mais pourquoi en fait aujourd'hui je veux aller en direction d'une communication, de quelque chose de plus éco-responsable, etc. Et c'est aussi d'aller questionner en fait l'impact que peuvent avoir nos actions avant de tout de suite passer au fil de l'action et de se dire allez, let's go, j'y vais quoi. Et donc je trouve que en tout cas l'apport que tu en fais, notamment au travers de la rigueur, c'est une idée qu'on n'entend pas toujours et que justement tu viens dédramatiser aussi par rapport à ça.
Totalement, parce que on va se dire souvent parce que déjà moi mon rythme de publication a diminué.
Ouais.
Comme j'ai pu te l'évoquer, j'étais à 3 publications. Actuellement, je suis à 1 publication. Mmh. Donc ce qui veut dire qu'on est à 4 publications par mois exactement, tout dépend du mois, ça peut être 4 ou 5. Mais dans ces 5 publications que je vais faire, il y aura vraiment une réflexion. Ça sera pas quelque chose qui sera fait parce que j'ai envie de le faire. Mmh. Ou la fameuse expression publier pour publier. Il y aura vraiment une réflexion à dire derrière. Je m'adresserai directement à mon public cible. Et je pense que d'une certaine façon, ça permet aussi bien pour nous qui sommes créateurs en dire de contenu et pour les personnes qui sont internautes, d'alléger aussi leur charge mentale derrière.
Ouais, c'est clair que ça va dans les deux sens. Au-delà, pour nous, aujourd'hui, il y a une surproduction de notre côté et une surconsommation du côté des internautes de la communication. Et au final, c'est de se dire, en fait, si on vient alléger déjà pour soi, parce que ça crée de la charge mentale, ça crée, on le sait, nous, en tant qu'entrepreneurs, alors même si nous deux, c'est notre métier, la communication, mais nos clients, ça ne l'est pas forcément, et de se dire qu'en fait, on a déjà tellement de casquettes aujourd'hui, entre la casquette de chef d'entreprise, la casquette de comptable, la casquette administrative, etc., et de se dire, et si on venait s'alléger, et c'est là qu'on revient à notre sujet du jour sur l'état d'esprit, de déjà, nous alléger dans ce qu'on a envie d'apporter, et de vraiment faire le tri pour revenir à l'essentiel. Et pas uniquement de faire du bruit. Parce que souvent, c'est aussi ce qu'on peut avoir comme conseil autour de nous, c'est faites du bruit, au plus vous ferez du bruit et au plus vous serez entendu. Mais maintenant, c'est à rien de se dire, mais ouais, mais comment j'ai envie de le faire ce bruit? Et c'est après, c'est un bruit qui va créer des obligations, des injonctions à l'intérieur pour soi. Et donc, c'est plutôt de revenir à qu'est-ce qui est important pour moi pour ensuite aller en direction de nos clients, comme tu disais, de notre communauté cible, de notre public, etc. Et c'est là où pour moi, oui, l'état d'esprit, en fait, d'une... En tout cas, la manière dont je le vois, et je serais intéressée d'avoir ton regard aussi tout à l'heure sur vraiment ce qu'est la slow communication, parce qu'il peut avoir tellement de définitions différentes, c'est de se dire qu'avant tout, il y a cette envie de communiquer et de connecter à l'autre, mais si déjà nous-mêmes, on n'est pas au clair sur la manière dont on veut le faire, il y a des risques que ce soit pas, en tout cas, entendu comme nous, on l'aimerait, et que ça puisse être biaisé, en tout cas, au fil, en tout cas, du message qui sera transmis. Je sais pas ce que t'en penses.
Moi, j'ai envie de te dire que l'exemple commence par nous. Ne commence pas par nous, ça va être difficile, justement, d'avoir une parole crédible auprès, on dirait, des personnes qui souhaiteraient, à l'avenir, travailler, on dirait, avec nous. Et je pense aussi le fait que on nous a martelé, et moi si je te dis ça, pendant des années on nous a martelé qu'il fallait absolument bombarder, on dirait, les gens d'informations, on dirait, ou autre, et on se rend compte que même, on dirait, l'information à l'heure actuelle, au niveau de l'attention, elle est réduite, puisque on a quand même une surcharge, on dirait, au niveau de pas mal, on dirait, de choses, aussi bien d'un point de vue professionnel que même privé, que des fois on a envie peut-être de se poser, on n'a pas envie de regarder notre téléphone, on a envie peut-être de faire, on dirait, d'autres choses, quoi. Et souvent ça peut avoir en fait une frustration, même pour une personne qui va créer du contenu, qui va se dire finalement peut-être les personnes n'aiment pas du tout mon contenu, c'est peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps de lire, en dire, ce contenu là ou qu'elles avaient d'autres, en dire, occupations, mais elle le fera peut-être, en dire, à un autre moment. On sent quand même cette impatience aussi sur pas mal de, en dire, de choses, quoi.
T'as raison de le souligner, c'est que en fait on pourrait dire que nous, en tant que communicants, on est un peu protégés de ça parce qu'on a l'habitude de comment ça fonctionne, mais on est avant tout des êtres humains, et en fait le fait de peut-être se faire des films en disant mais je viens de poster, et en fait on n'a pas vu tout de suite, mince, est-ce que ça veut dire que ça plaît pas, etc. Mais comme tu le dis, en fait, chacun a son rythme de vie aujourd'hui, chacun a des activités annexes, tout le monde n'est pas accroché à son téléphone quand on publie, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, et je pense que c'est important, en tout cas, moi, c'est la manière dont j'essaie de relativiser la chose, c'est vraiment de me dire qu'avant tout, je pose une intention. Avant de vraiment poster, alors moi c'est plutôt par exemple sur LinkedIn ou sur un épisode de podcast, c'est vraiment de poser une intention directrice qui moi me donne envie, en tout cas à l'instant, de partager ce que j'ai envie de pouvoir partager à d'autres personnes. Avant de se dire, ok, mon post a quel objectif derrière, où souvent on nous dit, il y a un plan de communication, il y a un objectif et ça répond à ça. Et ça, on est d'accord, ça rentre dans une direction, on va dire, pour le développement de son activité. Mais je pense que si on revient à l'intention du cœur, avant d'être dans l'objectif du mental, en fait, c'est là où on peut relativiser en disant, ok, moi, mon intention, c'est peut-être d'avoir levé des prises de conscience chez les personnes qui m'ont lu. Peut-être qu'elles n'ont pas interagi en mettant un like, un commentaire, etc. Mais pour autant, mon intention a pu être validée et elle a pu aller au bout des choses. Donc c'est pas évident, et encore une fois ça nous arrive à nous aussi, et je pense que on a déjà eu des discussions en off où on en parlait sur le fait que cette communication, c'est effectivement pas juste l'action de poster, c'est aussi toute la réflexion qu'on a en amont de poster, et vraiment de se mettre dans des bonnes dispositions pour dire ok, c'est ok, voilà les attentes que j'en ai, et voilà comment je vais laisser vivre aussi ce contenu pour voir quelle belle surprise il pourra me réserver par la suite, quoi.
Et des surprises, on en a.
Ouais.
on a vraiment de surprises, parce que si moi j'insiste et je trouve que ce que tu as dit est très intéressant, c'est que j'avais remarqué quelque chose à l'époque où je postais plusieurs reprises. je regardais pas en fait mes statistiques. Je m'arrêtais juste, on dirait, sur les likes, les partages ou autre. Et je voyais pas si ça a été touché par un nombre, on dirait, de personnes. Et je me suis rendu compte aussi qu'à cette époque-là, quand je postais beaucoup, en fait, je n'attirais pas du tout en fait mon public, on dirait, cible. Mais en changeant certains, on dirait, paramètres, là, maintenant, j'arrive, on dirait, à plus, on dirait, le toucher. Mais je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est que mon public cible, c'est en général n'interagit pas. Quand je dis n'interagit pas, tout simplement, c'est un public qui va être concentré sur son activité. Elle ne va pas être forcément tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être elle va consulter ses réseaux sociaux pendant une pause déjeuner, une pause, on dirait, café. Mm-hmm. Mais ce que je peux confirmer, c'est qu'elle va voir en fait mon contenu. Et ça m'est arrivé en fait justement il y a quelques semaines où justement j'ai échangé avec une épicerie fine. Donc je lui avais dit qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux. Elle me dit vous savez quoi, je regarde, on dirait, tout le temps votre contenu. Mais elle n'interagit jamais. Le fait que je suis allé la voir, elle m'a confirmé quelque chose en fait que je savais d'une certaine façon, mais j'avais un doute. Donc c'est toujours aussi intéressant aussi d'aller voir ces personnes-là et d'échanger avec elles quelles sont leurs habitudes, on dirait, ou autre. Et ça rassure aussi, par la même occasion, de se dire que le contenu que vous allez, on dirait, créer va intéresser des gens. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là n'interagissent pas par rapport à votre contenu qu'ils n'ont pas aimé, en fait, votre contenu, quoi.
Ouais, et puis en fait, ça, souvent, effectivement, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a ce qu'on appelle l'audience invisible. En fait, c'est ces personnes-là qui réellement peuvent s'intéresser à nos contenus, mais soit ne ressentent pas le besoin, en tout cas, d'interagir, etc., parce qu'elle, ça leur a apporté suffisamment d'informations. Et puis, comme tu le dis, un message, alors que ce soit, encore une fois, peu importe l'exemple, un post Instagram, un post LinkedIn, un podcast, etc., c'est avant tout destiné de manière globale à un ensemble de personnes. Mais après, les liens qu'on tisse, c'est effectivement, comme là tu l'as fait avec cette épicerie, c'est d'aller à leur rencontre, c'est d'envoyer le message, c'est de créer cette connexion émotionnelle. Moi, c'est souvent comme ça que je le vois, parce que quand on revient à la définition même de la communication, hein, peu importe quelle philosophie laisse la communication, mais c'est quand même avant tout un échange d'un être humain à un autre. Et c'est là où, pour moi, il y a effectivement cette vue d'ensemble, parce qu'on peut pas aller toucher chaque personne individuelle et aller personnaliser un message. On envoie un message global à l'ensemble de notre communauté, et après, effectivement, il y a la possibilité d'aller créer du lien en one-to-one avec les personnes, que ce soit au travers d'une rencontre. Il y a des messages privés qui sont liés à ça, des occasions de les rencontrer sur des salons. Et c'est là où, effectivement, et ton exemple le montre, c'est qu'en fait, ces événements de vie permettent de démontrer que cette audience invisible, en fait, quand tu la rencontres aussi en présentiel ou au travers vraiment d'échanges un peu plus intimistes, en fait, c'est là où on voit l'impact de ce qu'on a et qu'on ne fait pas ça dans le vent. Qu'est-ce qui, du coup, a fait que tu t'es rendu compte que tu connectais beaucoup plus avec ton public? Qu'est-ce que tu as envie et la leçon que tu en as tirée du fait de lâcher prise par rapport à ces statistiques et l'état d'esprit que tu cultives justement en étant moins focus là-dessus?
Alors, je te dirais que ça a été d'écrire aussi des textes personnels. Quand je dis des textes, on dirait personnels, des textes qui permettront en fait à mon public cible de pouvoir s'identifier. Mm-hmm. Et quand je dis s'identifier, par rapport en fait à leur quotidien. Et ce travail-là a été fait quand je les ai rencontrés. Et à partir du moment où je les ai rencontrés, ça m'a permis d'en savoir davantage sur leur quotidien. Et quand je dis davantage sur leur quotidien, ça pouvait être, on dirait, sur leur peur, ça pouvait être sur leur crainte, ça pouvait, d'une certaine façon, créer une sorte de carte d'empathie. C'est quelque chose, en fait, que tu utilises en storytelling. Une carte d'empathie, c'est ce qui va te permettre, justement, de construire des sujets qui permettront, justement, à tes clients cibles de s'identifier à ce que tu dis. Parce que souvent, on voit souvent sur les réseaux sociaux, que des personnes, on dirait, vont créer, on dirait, un storytelling. Est-ce que les personnes vont vraiment, on dirait, s'identifier? Alors que je pense qu'à partir du moment où on s'identifie à un quotidien, ça sera plus facile, justement, d'installer, en fait, une confiance, parce que c'est quelque chose aussi qui est très important. On n'en parle pas assez, on dirait, de la confiance, mais c'est quelque chose qui ne se gagne pas immédiatement. Ça se fait progressivement. Et pour ça, il faut des actions, il faut des actes qui permettront justement de rassurer les personnes qui te liront, quoi.
Ok. Donc le fait d'avoir lâché prise par rapport aux statistiques, c'est aussi le fait que tu as pu aller vraiment dans une phase de rencontre avec ton public cible et tu t'es rendu compte qu'au final, au-delà des chiffres, il y a vraiment une compréhension globale de la personne dans son ensemble pour vraiment aller toucher au plus près en fait de ces problématiques du quotidien. Et du coup, ça a changé quoi, on va dire, de manière générale, suite à cette meilleure compréhension, en tout cas, de ton public. Aujourd'hui, comment, justement, tu connectes avec eux? Qu'est-ce qui connecte avec eux grâce à cette meilleure compréhension?
Alors, je dirais que ça commence déjà une veille. Quand vous allez les rencontrer, parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie, j'adore aller à la rencontre justement de mon public cible. Ça peut être aussi bien dans des événements, ça peut être dans des salons, ça peut être aussi dans leur boutique. Et ça me permet justement de m'inspirer même quand je vais créer en dire du contenu, parce que il y aura forcément une référence par rapport à une chose que cette personne a pu me dire, mais qui va être identifiée par des personnes qui sont par exemple du même secteur que cette dernière. Et à partir de là, quand on voit justement que déjà la personne réagit, on a par moment elle peut ne pas réagir par rapport à ce que vous avez pu poster il y a quelques semaines, et là elle réagit, on a une sorte de satisfaction de se dire que on a compris en dire son problème. Pour le moment, elle est peut-être en période on dirait de réflexion, et qui sait, on dirait, l'avenir, elle pourra venir vers nous pour exposer en fait justement sa problématique, et on pourra l'aider par rapport à ça, quoi.
Ouais, et pour moi ça rejoint justement cette posture où aussi faire confiance, c'est faire confiance aux rencontres, c'est faire confiance aux événements de la vie. Et au final, tant que les bases sont solides, et là tu parles, bah voilà, que tu as eu cette phase où tu as eu besoin d'aller re-questionner aussi ton public pour être au clair en fait vraiment sur leurs problématiques, et ensuite de pouvoir, ok, bah là je sais pourquoi j'écris ces sujets-là, aussi bien parce que moi j'ai envie de partager quelque chose au travers de mon histoire, et aussi bien parce que je sais que c'est des sujets qui vont les impacter. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps et c'est ok, et moi pour le partager par rapport aux propres personnes que j'accompagne, à ma communauté, etc., je sais que ce sont des personnes qui ont besoin d'un temps de réflexion assez long. Et pour moi, c'est complètement OK parce que je me suis moi-même fait accompagner, j'ai eu moi-même besoin d'un temps de maturation pour me dire OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer sur mon activité, sur quels aspects j'ai besoin d'avoir du soutien et d'être épaulée. Et donc, il y a un temps vraiment de réflexion à prendre en compte aussi dans la communication, à se dire, bah, je vais pas aller tout de suite foncer tête baissée en disant « Eh oh, qui veut ?» alors que vous vendiez des produits ou des services, mais voilà, de vraiment dire « Je suis là, m'oubliez pas. » Mais c'est au contraire d'être dans une compréhension globale de la personne qu'on a en face de nous et de se dire « Ok, bah, cette personne, elle a peut-être besoin d'avoir ce temps de réflexion avant de passer à l'action. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer ?» pour à ce moment-là l'aider dans sa réflexion, et qu'à la fin elle décide ou pas de faire appel à moi. Mais je trouve que, en fait, dans notre vision de la communication, on est déjà, et on s'en parlait tous les deux, on est déjà dans cet aspect de sensibilisation et de pédagogie à notre sujet. Et pour moi, ça c'est hyper important d'aller en profondeur sur cet aspect vraiment de la com, et pas rester en surface sur juste... Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est une communication purement sur le fait de vendre. Et tu pourras... me partager également les échos que tu as autour de ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Mais je ne sais pas vendre, je ne sais pas me vendre. » Et du coup, la communication m'effraie et me fait peur parce que, si on reprend un peu l'expression, j'aurais l'impression d'être un marchand ou une marchande de tapis. Sauf qu'en fait, pour moi, il y a vraiment d'autres aspects et d'autres biais à la communication qui sont sur le fait d'apporter un regard, de sensibiliser, de lever des prises de conscience, de donner envie, etc. Et c'est là où, en fait... il y a vraiment des ingrédients différents à la communication, et on peut ne pas être à l'aise avec certains, mais ça se prend dans un ensemble. Et donc c'est ok aujourd'hui si on n'est peut-être pas à l'aise avec le fait de vendre, mais en fait il y a plein d'autres manières de prendre la communication. Alors je serais aussi curieuse d'avoir ton regard par rapport à ça, sur ces différents volets qu'on peut avoir, et que c'est complètement ok aujourd'hui de les aborder sous cet angle.
Ben, j'ai un exemple à donner, c'est la prospection. Généralement, quand on parle de prospection, on va directement identifier cela à de la vente. Alors que la prospection, c'est pas forcément vendre. La prospection, c'est aussi faire de la veille par rapport à son marché. Ça permet aussi de réajuster son offre. Une offre qu'on a pu peut-être proposer en consulting ou autre, et se rendre compte que peut-être les clients qu'on souhaite aider n'auront pas peut-être besoin de ce service-là, mais de réajuster ce qu'on va alors en fait leur proposer. Donc c'est proposer quelque chose en fonction de leurs besoins. Et je pense que pour revenir en fait à la prospection, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont te dire, mais finalement, je sais pas quoi dire, je sais pas comment approcher la personne ou autre. Et c'est ces questions-là qui nous empêchent justement on dirait, d'avancer. Si vous allez, j'ai envie de te dire, je vais te donner même un exemple, une rencontre avec un inconnu. Mm-hmm. Tu peux prendre par exemple les transports en commun, rencontrer en une personne et interagir avec elle parce que vous avez vu quelque chose qui vous a interpellé. Et là, il y a une conversation qui va commencer. Mais si dès le début, on se met en un blocage en se disant « Ah bah finalement, je sais pas du tout comment si cette personne-là va interagir ou autre », on ne fera jamais rien. Et je pense que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai décidé en fait de faire sauter. Parce que quand je publiais en dire beaucoup, c'est que j'étais que concentré sur la création de contenu et je me suis dit « Mais tu passes peut-être en dire à côté justement de ton activité. » Et ton activité, c'est de communiquer, c'est d'aller à la rencontre en dire des gens, de parler avec elle, et c'est ces personnes-là qui te donneront des pistes pour pouvoir justement en dire t'améliorer. Et à partir de là, bah ça m'a ouvert en dire le champ des en dire des possibles. J'ai plus fait en dire d'événements, j'ai plus en dire interagi avec mon public cible, et par la même occasion, j'ai eu même des retours bienveillants en dire de leur part du fait que ils ne sont pas intéressés pour le moment par mes produits ou par mes services, mais ils peuvent me mettre en contact avec quelqu'un qui peut être intéressé par ces derniers.
Ouais, et c'est là où en fait c'est l'intérêt de créer la conversation. Et cette conversation, en fait, peu importe par quel canal de communication on prend, que ce soit de manière, on va dire, digitale ou de manière présentielle, mais avant tout, la communication, c'est une conversation. Et en fait, si tout de suite on y va avec un état d'esprit de « Ok, je vais à tel événement » ou « Je communique sur tel canal parce que j'ai besoin de vendre ça », forcément, en fait, on va tellement mettre d'enjeux et de pression sur ses épaules qu'à un moment donné, la spontanéité est vraiment ce que vous avez dans les tripes et pourquoi vous avez entrepris et ce qui est quand même l'essence de votre mission aujourd'hui. En fait, c'est dommage parce que ça va se perdre et on va vraiment perdre ce supplément d'âme que vous avez aujourd'hui. Donc, je pense que c'est plutôt de le prendre dans un sens inverse. C'est de se dire, ok, j'y vais en me disant, bon bah voilà, j'ai envie d'interagir, j'ai envie de le faire avec plaisir, d'aller échanger avec les personnes. On verra ce que ça créa, toujours de se dire, bah voilà, mon intention ce serait de créer du lien avec des nouvelles personnes, comme ça au moins on va dire que l'enjeu il n'est pas énorme. Et puis à un moment donné, bah peut-être comme tu l'as dit dans ton exemple, soit il y a une personne qui sera intéressée et là c'est top parce que vous aurez incarné votre posture d'entrepreneur, ou à ce moment-là ça va venir uniquement vous nourrir sur le fait que bah, en fait il y a des besoins qui sont encore plus ajustés pour la suite, ou encore vous mettre en relation avec d'autres personnes. Donc en fait ouais, je pense que c'est vraiment une posture à adopter, et je pense que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. La posture de communicant, de slow communicant, la posture d'entrepreneur, de slowpreneur, elle va ensemble, c'est un tout, et on ne peut pas être que dans la posture du vendeur, et qu'aujourd'hui, on a plein de choses à apporter, bien entendu, au-delà de vivre de son activité, on est bien raccord là-dessus, mais pas à pas. Enfin, je pense que ça, sur le fonctionnement par itération et d'y aller progressivement, on est complètement raccord là-dessus, mais je pense que c'est un point important pour rester en phase avec soi. Et ben du coup, sur cet exemple d'y aller progressivement, est-ce que toi, tu aurais un exemple aujourd'hui où tu es peut-être allé progressivement dans un exemple de ta communication, que ce soit pour la tienne ou pour tes clients, de vraiment quelque chose où tu t'es dit, bah j'y suis allé progressivement et en fait, je me suis rendu compte que comme j'y suis pas allé foncer tête baissée, tu as pu observer et expérimenter du coup des choses différentes.
J'ai été serein en fait dans mes prises de parole. Mmh. Voilà.
C'est important.
Voilà. J'ai été vraiment serein dans mes prises de parole. Ça m'a permis aussi d'être aligné au niveau de ma communication et aussi au niveau de mes valeurs. Quand je dis de mes valeurs, c'est que lorsque en fait j'ai fait des cours de storytelling et de copywriting, j'ai su aussi ce que je ne souhaitais pas attirer. Ce qui veut dire qu'il y a eu un manifeste que j'ai dû écrire par rapport à l'agence qui était créateur, entrepreneur et marque engagée. Il est possible de communiquer moins et mieux. Et j'avais fait un listing, en fait, au niveau de, on va dire, des valeurs. Il y avait aussi bien le côté confidentiel. Il y avait aussi bien la patience. Il y avait aussi bien la connaissance. Il y avait aussi bien le respect, en fait, on va dire, des personnes, on va dire, ou autre. Et à partir de cette liste-là, bah, ça m'a permis, justement, on va dire, de créer des contenus qui parleront sans doute, on va dire, aux personnes qui les liront, mais ça sera moi, en fait, qui les écrira. Et puis, il y avait vraiment cette position, en fait, d'entrepreneur que j'ai pu prendre à cette époque-là. Maintenant, je suis largement plus à l'aise par rapport, on dira, à avant. Et puis voilà, je pense que ça...
Et sur cette posture, justement, qu'est-ce qui, pour toi, a évolué sur le fait que tu dis « je me sens plus à l'aise maintenant ». Qu'est-ce qui a fait qu'avant, tu l'étais peut-être un peu moins et que progressivement, tu as trouvé tes aises dans la propre manière d'entreprendre et la propre manière de communiquer ?
Si je devais te répondre, je dirais que j'étais pas du tout aligné avec mon métier et avec ma communication. Quand j'ai lancé l'agence, j'étais conseiller en communication. Quand j'ai fait mon positionnement en slow communication, j'ai été consultant en slow communication. Donc je savais vers quoi je souhaitais justement aider mes clients. Et c'est ce qui m'a permis même au fil des rencontres que j'ai pu en dire à avoir avec eux, de me dire que finalement, ça sera plus en fait le consulting que je souhaiterais faire. Déjà, je voulais pas faire de coaching. Simplement dire, ça m'intéressait pas du tout parce que mes clients, eux, n'ont pas du tout le temps. Mm-hmm. Déjà, par rapport au coaching, je veux dire, ils ont une activité qui leur prend entre 35 et 40 heures. Si à côté tu leur rajoutes du coaching, ils ont un petit peu le cerveau un petit peu en chou-fleur, quoi. Donc il fallait vraiment que je cible d'une certaine façon, plutôt j'identifie leurs problématiques et à partir de là leur proposer justement un plan d'action qu'ils pourront mener en fait sur 3 mois. Et c'est comme ça que justement que j'ai pu lancer après mon offre en dire de consulting. Ça a intéressé après en dire des clients par rapport à ça, quoi.
Ok, donc au final. C'est là qu'on voit que la clé, en fait, pour se sentir bien dans sa posture, et sa posture, encore une fois, d'entrepreneur, on va dire, sous toutes ses facettes, c'est l'alignement. Et là, tu l'as exprimé sur le fait qu'on débute tous en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de formation pour le devenir, on apprend sur le terrain avec plein d'expérimentations. Et là, tu t'es rendu compte, du coup, que c'était aussi un alignement, toi, à chercher au travers de tes valeurs et vraiment la manière dont tu voulais prôner la communication. Et du coup, ça me donne envie, en tout cas, de te poser une question. Ce serait quoi, pour toi, ta propre définition de la slow-communication aujourd'hui ?
Définition, je dirais... Pour moi, c'est un cadre de réflexion. Et vu que moi, je me suis plus orienté sur la sobriété éditoriale par rapport en dire, à mes clients, c'est leur permettre en dire, d'avoir quelque chose qui peut être personnalisé. Parce qu'on parle souvent de cadre en dire, de réflexion, c'est pas quelque chose qui est fixe, mais c'est quelque chose qui peut être personnalisé par rapport à leur activité. Et quand je dis leur activité, c'est en fonction de leur temps fort. Parce que d'une activité à une autre, on n'a pas les mêmes en dire temps fort. Que ça soit toi qui sois entrepreneur, une personne qui a une épicerie fine, là je te cite le type de client que moi je souhaite en dire attirer, il y a une façon en dire différente en dire de communiquer sur certains événements. Et il y a aussi des périodes sur lesquelles, et moi je joue beaucoup aussi par rapport à ça, la saisonnalité. Il y aura peut-être en dire des moments où il faudra plus en dire communiquer que d'autres. Il y a des moments aussi il faudra peut-être prendre des pauses. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui serait en dire intéressant, c'est de communiquer par rapport à son quotidien en dire d'entrepreneur. Son quotidien d'entrepreneur, ça veut dire que bah il y a des moments où on aura des hauts en dire ou des bas, on n'aura pas forcément envie de communiquer, mais c'est ce qui permettra d'une certaine façon de supprimer tout le superflu qu'il peut avoir justement au niveau de la création en dire de contenu. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de la communication responsable, qui, elle, est sur 3 points. Donc, c'est de réduire, de réutiliser et de recycler. Et pendant, justement, ce nouveau, en fait, positionnement, j'ai pu tester. Et j'ai pu voir qu'on peut s'appuyer, on dirait, sur ça, justement, pour pouvoir créer du contenu et sans vraiment, on dirait, s'épuiser et mettre à jour, justement, on dirait, son contenu par la même occasion.
Ouais, ça, c'est super intéressant parce que je pense que... Au sein de notre communauté, il y a des personnes qui sont sensibles justement à cette démarche aussi vraiment d'engagement pour l'environnement et dans différents domaines. Et c'est de montrer qu'aujourd'hui, dans cette philosophie de la slow communication, il y a vraiment des recoupements qui sont faits au travers de plein d'autres domaines et plein d'autres aspects. Et qu'en fait, il y a une philosophie de vraiment la raison d'être qu'on a envie d'apporter au travers de la communication. Mais en tout cas, dans les engagements de ces actions, le fait de recycler, etc., c'est des choses qui paraissent pertinentes, mais en fait, on n'y pense pas toujours. Et le fait de parler de recycler ses contenus, admettons, là, voilà, notre épisode de podcast, c'est un format qui est long, qui sera mis à disposition sur les plateformes d'écoute. Mais après, rien ne nous empêche de faire une synthèse de justement ce qui aura été retranscrit et partagé lors de cet épisode et d'en faire des formats plus courts à partager et à relayer sur d'autres supports. Et c'est là où, pour moi, c'est intéressant, c'est de se dire que, en fait, c'est nous qui créons notre propre recette de la communication. Et les ingrédients, on les a, mais c'est à nous de dire, bah ouais, moi, en fait, j'ai bien envie de recycler, de faire, à partir d'un format long, d'aller faire graviter plein de petits sujets courts, et qu'on n'est pas obligé d'être identique et similaire à tout ce que font les autres sur chaque canal qui a ses propres règles. Bien sûr, il y a toujours un cadre dans n'importe quel environnement et écosystème, mais qu'aujourd'hui, voilà, si on a envie de aussi bien respecter notre propre énergie, et comme tu le disais, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, et notre communication, elle n'est pas non plus linéaire, parce qu'on est seul à notre compte, surtout quand c'est des solopreneurs qui font leur propre communication, et de se dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est malléable, et que ça va vraiment vivre à partir de nous, à partir de notre communauté, c'est quelque chose qui se construit un petit peu en co-création, hein, sur tout ça. Et du coup, sur cette question, est-ce que toi, tu aurais une piste de réflexion ou d'action qui pourrait, comme on en parlait tout à l'heure, pour vraiment avancer pas à pas et progressivement, permettre aux auditeurs qui nous écoutent de leur donner envie, en tout cas, d'aller vers la slow communication? Qu'est-ce que tu as envie de partager?
Alors, je leur dirais que déjà, il y a un travail d'introspection à faire. C'est de balayer tout ce qui avait pu être fait avant et de pouvoir en fait le réadapter. Parce que souvent, moi je sais qu'au début, quand je me suis lancé en dire les premiers mois, j'avais beaucoup en fait d'interactions à l'époque. Mais là, je me suis rendu compte que l'interaction a baissé considérablement. Et ça peut frustrer dans un premier temps. Mais après, petit à petit, vous vous rendez compte que les personnes que vous allez attirer, ça sera les personnes. Ça sera en fait les bonnes personnes. Mais il vous faudra en fait de la patience dans un premier temps. Après, il y aura un travail à faire d'un point de vue de la création de contenu. Ça sera le premier de cibler. Mmh. Cibler dans un premier temps votre public cible ou les publics cibles que vous souhaitez attirer. Après, on dirait ce ciblage-là, vous pourrez justement créer, on dirait, du contenu qui vont susciter, on dirait, de l'intérêt auprès d'eux. Et ça permettra justement d'avoir une interaction, ça permettra d'avoir un engagement, on dirait, auprès d'eux. Et quand vous allez justement évoquer certains sujets, que ce soit en fait sur les réseaux sociaux ou en visu, bah, ils vont se sentir, on dirait, concernés. Ils vont se dire, ah bah cette personne, elle a sans doute, on dirait, compris ce que je peux, on dirait, ressentir, en ce moment au niveau de mon quotidien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et après, le troisième point, ça sera en fait votre fréquence de publication. Et votre fréquence en termes de publication, ce qui va être, on dit, intéressant, ce n'est pas en fait d'assommer votre public cible, c'est justement de répondre à 100% à sa problématique. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez en fait avoir des posts qui peuvent être personnels, il n'y a pas de souci par rapport, on dira, à ça, mais le plus intéressant, c'est vraiment de s'adresser à votre public cible. Et à partir de là, c'est comme ça que la confiance, on dirait, elle, va être engendrée, et petit à petit, que vous aurez, on dirait, des retours, que cette personne va plus regarder, on dirait, votre contenu, qu'elle va même vous voir, on dirait, en vrai, elle pourra justement en parler, on dirait, avec vous, et petit à petit, peut-être une aventure peut commencer avec cette personne.
Ok, donc si je résume ce que tu partageais, on va dire les points essentiels, en tout cas, qui résument ta philosophie de la slow communication, c'est de la patience. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, parce que tout vient à point à qui c'est attendre, et ça, c'est hyper précieux en slow communication, c'est que des résultats, on peut pas les avoir en un claquement de doigts, d'autant plus qu'on fonctionne de manière organique et que c'est vraiment, voilà, comme on le disait, sur de la durée, de créer des vraies connexions avec des personnes. Et donc bah ça, on devient pas, c'est comme dans la vraie vie, on devient pas amis avec des gens en un claquement de doigts, donc c'est pareil pour la relation de confiance. C'est de cibler et de vraiment filtrer par rapport aux personnes qu'on cible, et de se dire que on s'adresse pas à tout le monde, et c'est ok, parce qu'au contraire, c'est ça qui va créer l'impact aussi de notre communication. Il y a cette notion de fréquence dont tu nous parlais, puisque aussi bien pour nous permettre de respecter notre rythme, et comme tu le disais, de ne pas assommer les personnes avec la surconsommation de contenu, comme on s'en parlait au début. Et je me permets de rajouter un quatrième point qui, pour moi, était la liaison de tes trois recommandations, c'est l'empathie. Et l'empathie aussi bien avec soi, de se dire, bah voilà ce qui est ok pour moi, je me sens bien dans cette manière de communiquer, dans ce rythme-là, et cette empathie à connecter avec l'autre, et de se dire que là, on est pleinement dans cette phase où on comprend ses besoins, et que c'est pas uniquement publié pour dire de mettre en ligne et pour dire de nourrir l'algorithme, mais qu'au contraire ça a vraiment du sens, et c'est ce sens-là qui va amener à l'impact, et c'est pas l'inverse pour moi, c'est pas l'impact qui va amener au sens, c'est avant tout, on revient au pourquoi du début pour aller vers le comment et l'impact. Est-ce que j'ai résumé ce que tu avais dit au départ.
C'est parfait, c'est parfait. Mais même en plus, en parlant de l'algorithme, moi, je voulais t'avouer quelque chose. On l'a beaucoup boudé pendant des années, l'algorithme. Mais je pense que l'algorithme peut nous mettre en avant par rapport à quelque chose. Et ça revient à ce que j'avais dit dans notre conversation. Je parlais de régularité. Je pense qu'au bout d'un moment, quand l'algorithme va savoir que tu t'adresses à un type de personne, il va les cibler directement. Je vais te donner un exemple précis. Je faisais très peu de stories. Quand je dis très peu de stories, c'était j'annonçais un post, on dit à autre. Et là, j'ai remarqué que au fil des mois où je m'orientais vers la slow communication, l'algorithme, je dirais pas inconsciemment, mais je pense qu'il a su qui, je vais dire, je ciblais, bah, j'attirais en fait un type, on va dire, de clients. Les autres, je les attirais plus du tout. Donc contenu, ça pouvait être, on va dire, mes concurrents, ça peut être mes confrères, on va dire, ou autre, ça pouvait être une liste qui pouvait être longue, mais là, c'était vraiment ciblé par rapport à un type de personne, on va dire, que je souhaitais. Et là, je me dis, bah, je pense qu'il a peut-être un petit peu compris. Je pense qu'il faut en fait aussi le faire travailler aussi par la même occasion, parce que souvent on se dit ouais, mais peut-être il met pas en avant mon contenu, on dirait, ou autre. Mais il y a un travail aussi, on dirait, à faire. Et quand je dis qu'il y a un travail à faire, c'est que c'est pas que poster. Il faut aussi interagir derrière. Et quand j'ai interagi derrière, aller voir aussi d'autres contenus pour pouvoir justement créer une sorte de routine.
C'est intéressant ce que tu partages, parce que ça montre bien que ça va dans les deux sens et qu'effectivement la communication, c'est oui, nous, en tant que communicants, partagent en tout cas leurs messages, mais ils sont aussi observateurs d'autres messages et donc peuvent aussi interagir et créer la connexion auprès de personnes qui ont des messages similaires ou des messages complémentaires. Et il y a ce message-là qui est intéressant dans ce que tu partages, et il y a aussi le fait que c'est vrai. Aujourd'hui, on peut bouder, comme tu le disais, les algorithmes et se dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas visible, c'est de la faute de tel algorithme qui fait qu'on n'y est pas. Mais effectivement, c'est aussi un travail main dans la main, et c'est avant tout de se dire qu'on écrit et qu'on partage et qu'on communique pour des humains, et ensuite que effectivement, c'est cette régularité qui va permettre de faire comprendre à l'algorithme que bah, du coup, on est cohérent et pertinent et que ça intéresse, pour effectivement avoir ce coup de pouce et jouer le jeu sur les plateformes sur lesquelles on est. Et ça, l'un ne va pas sans l'autre, c'est évident. Je pense que c'était important qu'on remette l'accent sur le fait que on communique avant tout pour des vraies personnes qui sont derrière leur écran et que c'est pas uniquement pour une machine, mais que pour autant, cet algorithme, il peut nous aider à aller en direction de ces personnes quand il y a voilà, certaines règles du jeu qui sont prises en compte pour aller dans cette direction.
Totalement. Hein.
Eh ben écoute, on a pu partager sur plein d'aspects, en tout cas de la slow-communication. On aura encore tellement de choses à partager à ce sujet. Est-ce que tu auras envie d'ajouter un dernier mot ou encore une question, enfin peu importe, quelque chose pour venir alimenter le sujet?
Eh ben je terminerai. Soyez patient.
Soyez patient, mais du coup, ça a beaucoup de valeur et vous récolterez les graines et les fleurs semées, si on reprend un peu le champ sémantique de graines d'osmose. Bon, bah écoute, merci Bénédicte pour cet échange. C'était hyper appréciable de vivre ce moment avec toi et vraiment d'aller à la rencontre de bah, nos regards croisés au travers de la slow communication. Et puis, bah, écoute, je pense qu'on peut se retrouver, alors on l'a compris là au travers du dernier échange, on peut te retrouver sur Instagram. Du coup, sous la mention, on te retrouve avec quelle mention sur
Instagram? Par rapport au podcast ou le compte
bah, comme ça, tu peux présenter les deux.
Bah, écoute, par rapport au compte On Dire Pro, vous pouvez me retrouver sur le compte de l'agence iFidelity. Donc, je suis aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn, comme je l'ai souligné. Et par rapport au podcast, Memento, le podcast sur Instagram, tout simplement.
Ok, bon bah écoute, c'est top, on a toutes tes infos. Et puis, eh bien, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver. Alors moi, je ne suis plus sur Instagram, puisque j'ai fait le choix d'aller à l'essentiel de mes canaux de communication. Et moi, je suis essentiellement sur LinkedIn, donc sous le nom de Mathilde Van Beningham. On vous mettra les liens sous la description de l'épisode. Je ne vous en voudrais pas si vous ne savez pas l'écrire ou le prononcer. Et puis, on se dit à très vite pour d'autres épisodes autour de la slow communication.
Merci beaucoup, Mathilde.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu penses que celui-ci peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à diffuser Graines d'Osmose autour de toi. Aussi, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens utiles pour retrouver mon invité du jour si son partage a résonné en toi, télécharger le guide de la slow communication si tu veux approfondir le sujet en autonomie, ou bien réserver une séance diagnostique gratuite avec moi si tu ressens le besoin de faire un point personnalisé sur ta communication et voir quel prochain pas se profile pour toi. Pour ma part, je ne m'impose pas de rythme de diffusion, alors le meilleur moyen d'être notifié des prochains épisodes, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, tu connais peut-être la chanson, il te suffit de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.